Libre-échange avec Tammy Rolfi.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine dans le cadre Libre-échange sur Assouat. C'est l'occasion de parler un peu d'activité économique, mais c'est aussi l'occasion de donner le micro à ceux qui font bouger les lignes, font bouger les choses et font que l'activité continue à bien avancer dans notre pays. On va aujourd'hui parler beaucoup de technologie et comment le Maroc peut faire partie de ces pays qui avancent parce qu'on ne peut pas être en attente et on a beaucoup, beaucoup de choses à faire en la matière. On va découvrir qui est notre invité.
L'invité de la semaine.
L'invité de la semaine de Libre-Échange est Salwa Karkari Belkhaziz, président de l'APBI, qui est la Fédération des technologies de l'information. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et je suis ravi de vous recevoir à nouveau dans les studios d'Assouat parce que on va célébrer quelque chose d'important pour votre secteur, les 30 années de votre fédération.
Tout à fait.
Merci, Salwa Karkari Belkhaziz, d'être là. Et pour représenter la Vie Éco cette semaine, c'est Mehdi Motalib qui a fait le déplacement. Ça va, mon cher Mehdi?
Très bien, et vous?
Ça va bien. Ben, écoutez, on a une dame dans le studio, donc ça fait un studio déjà plus riche parce que la question de genre est importante dans notre pays. Et en plus, une présidente et dirigeante d'une entreprise, c'est bien. Je voudrais, Salwa Karkari Belkhaziz, peut-être commencer par quelque chose d'extrêmement simple. La semaine dernière, vous avez vécu deux événements importants. Celui de Smart Africa, on va en parler, c'est le Maroc qui intègre Smart Africa, on va en parler dans un instant, mais par contre, vous avez votre manière de célébrer un peu les 30 ans de la PBI en sortant une sorte de livre blanc que vous appelez le Recommendation Paper. C'est donc un livre blanc où vous interpellez et posez les sujets qui feront que le Maroc puisse entrer dans la digitalisation dans le monde numérique.
Oui, effectivement, nous avons estimé qu'il fallait un peu faire un petit historique un peu de ce qui s'est passé au Maroc depuis 20 ans. La première stratégie, elle date du gouvernement de l'alternance. Et puis, faire un point, s'arrêter et dire où est-ce que nous en sommes par rapport au digital. Pourquoi le Maroc n'est pas encore digital? On se pose un certain nombre de questions. Pourquoi 30% seulement de PME disposent d'un site web? Pourquoi nous avons reculé au niveau du classement e-gov en passant de la 80 places à plus de 110 places? Pourquoi les services aux citoyens sont dématérialisés, à moins de 100 services qui sont dématérialisés alors qu'il y en a plus d'un millier? Et puis comment est-ce qu'on peut, en fait, où est-ce que ça coince? C'est un peu les questions qu'on s'est posées. Puis on s'est dit, en tant que professionnel, on ne peut pas répondre tout seul. Donc nous avons adopté une méthodologie d'entretien avec des personnalités publiques et privées que je tiens à remercier, des grands chefs d'entreprise, des ministres, etc. En fait, c'est des gens que nous avons sélectionnés en fonction de leur sensibilité et leur culture du digital. Et ils nous ont fait un certain nombre de recommandations et nous avons invité le ministre la semaine dernière pour lui présenter ses recommandations, lui présenter d'abord notre vision, nos objectifs, les recommandations. Et bien sûr, pour que ces recommandations ne restent pas sur papier, on s'est mis d'accord que par la suite, il y aura un think tank qui va en fait reprendre
chaque
champ de recommandation et le travailler en fond aux recommandations opérationnelles. Alors, et en impliquant toujours les autres opérateurs.
Quels sont les axes majeurs qu'on doit avoir à l'esprit parce que c'est, d'une certaine manière, c'est le bilan de 20 années, mais en même temps, des signaux d'alarme que vous faites? Quels sont les axes majeurs qu'on doit avoir à l'esprit?
Et puis surtout que c'est une période où nous sommes tous ramenés à réfléchir à un nouveau modèle économique pour notre pays, pour les 20 prochaines
c'est
années.
C'est un nouveau modèle de développement.
De développement économique. Développement. Et on s'est dit, en fait, le digital, c'est le moyen. Ça doit être, on l'a appelé le cœur. Le ministre a dit non, ça doit être au service du développement. Peu importe, mais en tout cas, le digital peut intervenir dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la santé, l'agriculture, donc les secteurs d'activité industrielle avec l'industrie 4.0, etc. C'est en fait grâce au digital que le Maroc peut être compétitif, le Maroc peut créer de l'emploi, le Maroc peut créer de la valeur ajoutée. Et donc, on a voulu démontrer que ce n'est pas un secteur en lui tout seul, c'est un secteur faible, mais c'est surtout la locomotive pour tous les autres secteurs.
Mais Mehdi Motalib, la Vie Éco.
Est-ce que la PBI dispose de tous les outils dont elle a besoin pour jouer efficacement le rôle qui est le sien?
Vous savez, la PBI, c'est une fédération de bénévoles et donc nous avons su construire une crédibilité et nous sommes l'interlocuteur du gouvernement marocain depuis déjà quelques années. Et puis ces 4 dernières années, nous avons doublé encore plus d'efforts avec le peu de moyens que nous avons, les cotisations comme toute fédération, mais également la taxe sur importation dont toutes les associations utilisent. Donc les idées sont là, les moyens sont là. On propose, mais malheureusement, on reste avant tout une association, donc on ne peut pas exécuter, mais on ne peut que proposer et être force de proposition.
Quels sont les champs pour lesquels vous estimez que la situation est critique, qu'il faut qu'on agisse très vite parce que sinon, on va rater quelque chose pour servir le développement. Alors qu'on soit au cœur, qu'on soit en périphérie, mais il faut qu'on se développe.
Il y a plusieurs chantiers, mais on pense que le premier chantier, c'est le chantier e-gov, c'est l'administration électronique, c'est le service aux citoyens. C'est-à-dire qu'avec le digital, on peut rendre un grand service aux citoyens. Donc, il faut accélérer la dématérialisation de tous les process. Pour cela, il faut accélérer l'interopérabilité. Et pour cela, en fait, il faut revoir la gouvernance. Et ça a été notre première recommandation. En disant, nous sommes arrivés maintenant à 2020, donc la stratégie Maroc Digital 2020 arrive à échéance. Et donc, maintenant, il faut réfléchir autrement. Le fait que l'agence soit là, et nous en sommes heureux, l'agence de développement digital, elle doit faire une stratégie spécifique pour l'administration électronique, mais en y incluant les grands donneurs d'ordre. C'est-à-dire, les grands donneurs d'ordre qui ont les grands projets, c'est qui? C'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère des Finances, c'est la Défense nationale. Et ces ministères-là, ils doivent être en amont, en fait, dans ces stratégies. Et qui doivent avoir un budget spécifique. Elles doivent avoir des indicateurs de performance. Et elles doivent avoir une gouvernance qui doit être chapeautée par le bureau du chef du gouvernement directement. C'est très important parce qu'on ne chapeaute pas, en fait, on ne dirige pas un secteur. On dirige une transformation digitale de l'ensemble des ministères. Donc, c'est très complexe.
Donc, ce que vous nous dites, en définitive, c'est l'État qui doit, dans son administration, engager le changement vers la digitalisation.
Exactement.
En premier.
Accélérer en premier, et c'est très rapide et c'est faisable.
Est-ce que l'État a conscience que cet investissement peut lui faire des économies à terme?
On commence à voir, oui, ça dépend des institutions. Par exemple, on voit le ministère de l'Agriculture qui vient d'être justement un projet financé par la BAD pour digitaliser l'agriculture. Ils sont conscients, ils ont fait une évaluation, ils savent qu'ils peuvent. Donc tous les secteurs savent, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, ils savent tous. Maintenant, c'est un peu comme un orchestre, vous savez, chacun joue un peu tout seul. Et ce qu'il faut, c'est harmoniser tout ça.
Ce que vous appelez la gouvernance?
C'est ça, c'est la gouvernance. Et c'est le premier point que nous avons vraiment recommandé. Donc commençons par l'administration électronique avec une bonne gouvernance. Le deuxième chantier qui est très important, c'est la fibre optique, c'est la connectivité de tous les citoyens marocains.
Parce que on en est loin aujourd'hui.
Si nous offrons des services online, il faut que tous les citoyens, peu importe sur la carte du Maroc où il faut qu'ils puissent accéder à Internet et pas cher. Donc ça, c'est le deuxième chantier.
La fibre optique dans le monde rural, ça va être difficile parce que... Mais bon, qu'on soit connecté, c'est une chose, mais pas la fibre optique pour tout le royaume.
Voilà,
en termes de
superficie,
ça va être difficile.
Peu importe le type de connexion, mais déjà, il y a des petits freins rapides qu'il faut lever, comme le partage des infrastructures, comme l'ouverture, comme donner d'autres licences, ouvrir à la concurrence. Et nous avons fait des recommandations concrètes sur ce point-là, parce qu'on pense que c'est le deuxième chantier qui est le plus important. Le troisième chantier qui est très important, c'est les talents, c'est la formation, c'est les ressources humaines. Ouais. Il faut alphabétiser tous les fonctionnaires de l'État. Les alphabétiser d'une manière digitale, numériquement.
Il faut leur apprendre ce qu'est la culture du numérique.
Et les entreprises. Non, il faut leur apprendre à utiliser le numérique.
Oui.
Parce que on ne peut pas aller dans des administrations partout au Maroc et trouver des ordinateurs avec de la poussière qui sont là, qui ne sont pas utilisés. Ce n'est pas normal, on n'y arrivera pas. Et les entreprises, on arrivera, c'est pareil. Les entreprises, ils ont besoin d'alphabétiser. C'est de la formation continue numérique. C'est quelque chose qui doit être pris en charge par l'OFPPT.
Mehdi Montalib, La Vie Éco.
Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour convaincre davantage de PME, justement, à faire leur transition digitale?
Vous savez, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. D'ailleurs, au niveau de la CGEM, j'espère que le prochain bureau va prendre ce sujet à bras le corps, parce qu'en fait, on doit commencer par nous-mêmes, par nos entreprises, quand je parle des membres, parce que c'est bien de demander des protections de point de vue droit de douane, revoir les accords de libre-échange qu'on a fait avec tous les pays, c'est une piste, mais il y a une autre piste qui est très importante, c'est comment rendre nos PME-PMI compétitifs. Et pour les rendre compétitifs, on doit les accompagner dans la transformation digitale. On ne peut plus continuer à travailler comme avant et dire on n'est pas concurrent, il faut fermer. Et pour ça, nous avons également des propositions concrètes. Je vous en donne une, tout simplement. Nous avons donc la PBI qui est les professionnels, nous avons l'Agence de développement digital et nous avons Maroc PME. Et l'idée, c'est en fait qu'on labellise des solutions sectorielles par secteur, donc textile, électronique, aéronautique, automobile, etc., qu'on les mette sur les clouds, parce que nous avons justement des... On les met sur les clouds et Maroc PME finance une partie. Et c'est-à-dire que la PME va payer un loyer mensuel, peut-être va payer 20%, Maroc PME va payer 80%, elle va accéder à des solutions qui sont des solutions métiers. Ce sont des choses concrètes, faciles à faire, mais il faut le faire avec la CGM, le secteur privé, l'ADD et puis Maroc PME.
Alors, ces PME qui accéderaient à ces solutions pour nos auditrices et nos auditeurs sur Aswat, c'est-à-dire que ces PME vont améliorer leur mode de management, la gestion de l'information,
exactement, c'est-à-dire
les éléments
au lieu
de prise de décision.
Voilà, c'est-à-dire qu'ils vont faire du marketing, ils vont faire de la gestion de la production, la gestion financière, le CRM avec leurs clients, avoir un portail en interne, avoir un portail pour leurs clients pour accéder aux informations. Tout ce qu'ils, en fait, tous les process doivent être digitalisés. Et au lieu d'acheter, parce que la PME n'a pas les moyens, et d'acheter des ordinateurs, et d'acheter des logiciels, et surtout de recruter avec le turnover que nous avons. Et donc, l'idée, c'est de mettre à leur disposition des solutions en cloud, et la PME ne fait que accéder et payer un loyer mensuel qui est pas cher.
Je voudrais qu'on évoque avec vous la dynamique qui se passe au Maroc par rapport à d'autres pays comparables. Comment est-ce qu'on peut dire notre situation à nous, ces cris d'alarme que vous évoquez, c'est de se dire quoi, on est pas mal lotis, on est très en retard, c'est...
Ça dépend, franchement, ça dépend des pays. Bon, là, on peut peut-être parler des pays d'Afrique.
Oui.
On prend la Côte d'Ivoire, par exemple, qui a plus d'avance sur nous, sur le nombre de procédures qui sont déjà dématérialisées. On prend la Tunisie, qui sont plus avancés sur nous, sur la partie start-up, parce qu'ils ont passé déjà la loi sur l'high-tech. Donc chacun un petit peu... Et l'idée, justement, on en reviendra, et c'était aussi l'idée de l'high-tech, c'est justement comment tous ces pays-là peuvent se regrouper ensemble et peuvent partager leur expérience et leur success story, et aussi leurs échecs, pour éviter que d'autres pays fassent les mêmes échecs.
Oui, alors vous évoquez l'high-tech, c'est un salon annuel qui est organisé depuis 4 années par votre fédération au Maroc. La dernière édition s'est tenue il y a à peu près un mois et demi. Combien de pays ont été représentés ?
Fin octobre, on avait une trentaine de pays représentés. Et cette année, l'exceptionnel, c'est que nous avions un pays d'honneur qui était africain. Effectivement, c'était le Congo-Brazzaville.
Oui.
Mais nous avons eu comme pays d'honneur la Chine, ce qui est une première. Nous avions décidé d'inviter la Chine, vu justement l'avancée technologique de la Chine au niveau de la 5G et autres. Donc, on a voulu avoir aussi un pays qui est technologiquement très avancé. On a eu plus de 1000 visiteurs. On était obligé de faire un chapiteau à côté de l'hôtel Sofitel parce qu'on a eu beaucoup d'exposants qui voulaient. Et ça s'est très bien passé. Donc, pour une 4e édition, c'était très bien passé.
Je rappelle que vous êtes la présidente de la PEBI, Fédération des Nouvelles Technologies ou Technologies de l'Information au Maroc. Lorsqu'on évoque... l'ouverture qu'a le Maroc sur d'autres pays en termes de rayonnement, est-ce que dans notre pays, on peut aussi imaginer qu'il y a des entreprises de votre secteur qui peuvent marquer des points sur le marché international ?
Oui, bien sûr. Bah, la preuve, il y a déjà eu des entreprises dans le secteur de la monétique qui avaient marqué des points. Nous avons également, dans tout ce qui est ingénierie, on marque des points avec des sociétés japonaises, avec, en fait, de l'ingénierie pour l'automobile. C'est aussi de l'IT. En fait, c'est de l'ingénierie. Ça fait partie de l'écosystème. On peut, tout est faisable. Du moment où on a des start-up pas mal, il faut juste qu'il y ait un environnement. Et puis, on n'a pas parlé des talents. Il faut qu'on arrive à garder nos talents.
Absolument.
C'est quelque chose qui est très important.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Après, je donnerai la toute dernière question à Mehdi Montalib-Davieco. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour garder les talents?
Il faut former plus.
Il faut former plus, même s'ils partent, même si l'hémorragie est là.
Si on a 10 qui partent et qu'on forme 100, on gardera 90.
Mais on n'a pas intérêt à en chercher ailleurs? Est-ce que le Maroc doit être aussi une terre d'immigration?
Nous sommes déjà, par rapport à l'Afrique subsaharienne.
Je parle d'ingénieurs.
Il faut faire venir des
cerveaux techniques.
À GFI, même l'entreprise que je dirige, nous avons des Sénégalais, nous avons des Ivoiriens. Oui, il y a, c'est parce qu'ils viennent faire des études ici et puis ils restent pour une première expérience.
Allez, mon cher Mehdi Montalib, toute dernière question, nous sommes dans Libre-Échange sur Aswat.
Comment le Maroc peut-il encourager la création de davantage de start-up, justement?
Alors, sur le livre également, sur la recommandation paper, on a deux pages de recommandations au niveau des start-up. On a déjà travaillé, il y a déjà un premier acquis avec la DD, c'était par rapport à la carte start-up et le label start-up qui existe maintenant, avec la possibilité pour eux d'acquérir des logiciels à l'extérieur. Nous avons fait des recommandations sur le financement, nous avons fait des recommandations sur la partie Open Innovation avec les grandes entreprises. Et donc, il y a beaucoup de recommandations qui sont déjà dans la charte d'investissement, qui est en cours, je dirais, de vote et dans le circuit législatif. On espère qu'elle va voir le jour. Mais en tout cas, il y a toute une dynamique. Bon, on reste là, en ce moment même, entre hier et aujourd'hui, nous avons envoyé de la PIB 4 startups qui participent à un concours à Marseille, en France, en ce moment même. Donc, il y a vraiment toute une dynamique. Ça reste encore insuffisant, puisque le Maroc, je pense, en 2018, nous n'avons pu lever que 3 milliards de dollars pour les startups, donc ce qui est très peu par rapport à d'autres pays africains. Mais la dynamique est lancée et il faut continuer. Il faut continuer.
Merci, Seloua Karkrebrisis, de rester à nos côtés. On vous donnera la parole pour le mot de la fin dans quelques instants. On va passer à la rubrique suivante.
Le Zoom de Libre-Échange.
Alors, il faut dire que dans ce Zoom, je voudrais le consacrer aux technologies de l'information, à la PIB, qui vient de célébrer ses 30 ans. Mais plus que jamais, le digital au devant de la scène. Il faut dire que le secteur a réalisé des avancées phénoménales et la réalisation du Maroc, et en tout cas les entreprises sont dans ce secteur, en termes de transition et de transformation digitale, ne comptent plus les louanges à l'international sur leur capacité à réaliser. Cela dit, on doit se le dire entre nous, beaucoup reste à faire. Des actions en particulier visant à convaincre davantage les PME à sauter le pas, les grandes entreprises à être exemplaires. Et vous dire que ces PME marocaines sont souvent réticentes et doivent être rassurées sur les apports positifs de la transformation digitale pour ce qui est d'une part du parcours du client, des recrutements, des évaluations RH, de gains considérables du temps traduit, évidemment en termes de croissance sur leurs activités, leurs chiffres d'affaires. Bref, il faut qu'on puisse imaginer un nouveau modèle de croissance collectif, de croissance économique, basé sur le digital qui va connecter les entreprises à leurs clients, leur écosystème sectoriel respectif, leurs prestataires de services et les administrations, et ce qui pourrait évidemment accélérer la transition et la transformation digitale du pays. Qui doit agir le premier? Salwa Karkali nous disait il y a quelques instants en direct sur l'antenne d'Aswat, il faut que l'État et le gouvernement, pour ses administrations, soient le leader en la matière pour qu'ils puissent attirer et servir les particuliers qui sont des citoyens, mais aussi des entreprises qui sont des citoyens moraux sur son territoire. Agissons vite et au bon rythme, les autres ne nous attendent pas.
Le mot de la fin.
Salwa Karkali, on voudrait consacrer ce mot de la fin. Évidemment, si vous avez des réactions sur le Zoom, votre micro est ouvert. Mais je voudrais aussi qu'on évoque avec Mehdi Mottalib et vous le fait que le Maroc ait intégré le Smart Africa et que vous expliquez à nos auditeurs qu'est-ce que le Smart Africa.
Alors, le Smart Africa, c'est une initiative qui a été lancée en janvier 2014, il y a eu un manifeste de Smart Africa approuvé par tous les chefs d'État de l'Union africaine lors de la 22e session ordinaire de l'Assemblée de l'Union africaine qui s'est passée. Et en fait, l'objectif, c'est de créer un marché numérique unique et d'utiliser les technologies de l'information pour le développement socio-économique de l'Afrique. Donc, c'est une initiative qui est partie avec 7 chefs d'État en 2014. Et jusque la semaine dernière,
que le Maroc a rejoint fin 2019.
Jusqu'à la semaine dernière, il y était 29 pays. Nous, on travaille sur ce projet depuis à peu près un an avec la direction de Smart Africa. Et nous avons réussi donc à faire intégrer le Maroc la semaine dernière. Et le 30e.
Oui, 30e pays. Très contents, 30e pays à l'échelle africaine.
Africain, donc, c'est 54.
C'est franchement pas trop tôt. Mais bon, c'est fait.
C'est jamais
trop tard pour bien faire. Mais quels sont les engagements que ça a pour le Maroc et qu'est-ce que ça va apporter aux administrations, aux entreprises de technologie?
L'idée déjà, c'est comme c'est présidé par les chefs d'État eux-mêmes, oui. Le conseil d'administration présidé. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une prise de conscience importante.
Et un engagement fort.
Il y a un échange d'expériences. Vous savez, le pays de Rwanda qui a lancé cette initiative, c'est un pays qui n'a aucune ressource, aucune matière première, et tout repose sur l'économie numérique et sur les services. Ça va apporter beaucoup au niveau de la réglementation. Vous savez, par exemple, maintenant, quand vous voulez téléphoner dans un pays d'Afrique, vous le savez, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, il y a déjà toute la partie infrastructure. On essaie d'avoir justement des roaming un peu entre les différents pays.
Il y a des opportunités encore pour les entreprises marocaines.
Des opportunités importantes. Il y a de la réglementation qui va... Et puis, il y a des opportunités importantes pour nos startups parce qu'il y a eu 50 millions de dollars qui ont été levés pour les start-up africains. Et donc, il y a bien sûr le partage des projets. Et que quand nous avons présenté notre recommandation paper devant le directeur de Smart Africa qui a fait le déplacement de Rwanda à Rabat, il a trouvé qu'il y avait pas mal de recommandations qui avaient déjà été mises en œuvre et qui ont réussi dans d'autres pays. Et donc, il va appuyer ce type de recommandations.
De l'intérêt de partage d'expérience.
Exactement.
Merci beaucoup. C'était Libre-Échange. Je rappelle notre invité, présidente de l'APB, la Fédération des technologies d'information, qui fêtait ses 30 années cette fin d'année 2019. À la semaine prochaine, même heure, même endroit. C'est sur Aswat. Vous savez où ça se passe. C'est avec plaisir pour ma part que je vous y retrouverai. À la semaine prochaine.